sympathiser avec eux, le couple souhaitant effectuer un peu de tourisme. Mais n'ayant pas de moyens de locomotion, il leur a proposé de les conduire pendant les journées de travail de Léon. Le compagnon de Sylvia commence donc petit à petit à s'attirer les faveurs des membres de la maison de la Calle Morelos, servant de guide aux amis et proposant régulièrement de prêter sa splendide Buick Riviera pour aller faire des commissions. Il faut dire que ce dernier maîtrise parfaitement l'espagnol, à vrai dire. Le couple d'amis français a même détecté un brin d'accent espagnol lorsqu'il s'exprime avec eux dans la langue de Molière. L'accent belge a donc bien des subtilités, s'était-il dit. À force de rendre des services, Natalia s'est sentie obligée de l'inviter à boire le thé. C'est donc à cette occasion qu'il a pu faire la connaissance des Trotsky. Il s'est tout de suite montré révérencieux envers le vieux, lui expliquant que son admiration pour son idéologie révolutionnaire n'avait pas d'égal. Léon est plutôt séduit par ce grand et bel homme silencieux qui le fixe droit dans les yeux quand il lui parle. Bornard ne se fait donc pas prier pour demander au vieux s'il accepterait qu'il écrive une double page sur lui pour la presse belge. Il souhaiterait revenir sur la vie du révolutionnaire ainsi que sur ses activités au Mexique. Trotsky accepte, mais en posant une condition. Qu'il ait un droit de regard sur l'article et qu'il puisse le relire avant publication. C'est donc tout naturellement qu'on a commencé à voir de plus en plus Jacques Mornard à Calle Morelos. Journaliste s'y rendant certaines après-midi pour s'entretenir avec le vieux au sujet de son article. Léon se rend rapidement compte qu'il va devoir mettre son nez dans la rédaction du papier tant le style du jeune Belge laisse à désirer. Il multiplie les approximations sur la révolution de 1917 et semble ne connaître qu'à moitié les grands concepts de la doctrine trotskiste. Natalia, elle, se méfie du journaliste. Elle le trouve taciturne et n'aime pas sa façon de tresser les couronnes à son mari du matin au soir. Un jour avant de se coucher, elle a même fait part de son inquiétude à Léon. « Oh, tu sais, ma chère Natalia, aujourd'hui, je dois me méfier de tout le monde, en dehors de toi. N'importe qui, n'importe quelle personne en qui je pensais avoir une totale confiance pourrait venir chez moi pour me tuer. » Ces craintes, vous vous en doutiez peut-être, ne sont pas tout à fait infondées. Jacques Mornard est loin d'être celui qu'on pense. Ce dernier ne s'appelle d'ailleurs pas Jacques Mornard, mais Ramon Mercader. Et il n'est pas belge, il est espagnol. Mercader est en réalité un agent stalinien engagé pour assassiner Trotsky. Ramon Mercader, né à Barcelone en 1913, issu d'une famille communiste, il s'investit naturellement dans la guerre civile espagnole en 1936 et devient soldat de l'armée républicaine contre le camp nationaliste de Franco. C'est à cette période qu'il rencontre des membres des services secrets staliniens alors présents sur place. Tout de suite, le jeune catalan leur plaît. Il est vigoureux, n'a peur de rien et surtout semble prêt à tout pour servir l'idéologie communiste dans laquelle il baigne depuis son enfance. Et puis de plus, il est très cultivé et s'exprime en plusieurs langues dans un vocabulaire soutenu. Les services secrets russes, le NKVD, le convoquent alors pour lui proposer une mission. Cette mission, c'est d'accomplir l'obsession du dictateur Staline depuis plusieurs années. Assassiner son ennemi de toujours, Trotsky. Le NKVD met tout en place pour convaincre Mercader. A commencé par lui proposer un contrat à plusieurs chiffres. Oh, c'est pas l'argent qui motive le jeune espagnol, mais plutôt la gloire, s'il réussit. Il deviendra le héros de toute une nation et sera décoré de l'ordre du mérite du régime socialiste des mains de Staline lui-même. Mais la mission est loin d'être aisée. Pour cela, il doit trouver un moyen de se rapprocher du vieux révolutionnaire. Le NKVD s'intéresse déjà depuis plusieurs années à Sylvia Hageloff et sait que la jeune américaine part pour quelques semaines à Paris. Mercader, qui maîtrise déjà le français et un peu d'anglais, y est envoyé avec un objectif fondamental. Séduire la jeune femme afin de devenir son amant. Les services secrets staliniens lui donnent pour ça des ressources illimitées qui permettront à Mercader de mener un train de vie fastueux. On lui génère un nouveau passeport belge et une identité. Jacques Mornard, 33 ans. Le NKVD se dit que ni Aguelov, ni Trotsky ne se méfieront d'un journaliste issu d'un pays neutre dont les intérêts à soutenir Staline étant très faibles. Et puis la suite, vous la connaissez, en partie. Aguelov et Mornard commencent à mener leur idylle parisienne pendant que dans le même temps, l'agent espagnol rend un rapport hebdomadaire au NKVD. Aguelov décide alors de rester à Paris et le couple s'installe ensemble. Après 2 ans de liaison, le NKVD, apprenant l'installation de Trotsky au Mexique, lance la 2e étape de l'opération. Sylvia Aguelov reçoit alors une fausse lettre de son médecin français lui indiquant que certains examens de ses sinus ne sont pas bons. Il lui explique que le climat froid et humide parisien pourrait engendrer chez elle une sinusite subaiguë, maladie dont on n'était pas en mesure d'opérer à cette époque. Sylvia, sur les conseils de son médecin, se décide alors à quitter la France pour s'établir dans un pays au climat tempéré. Mornard, qui sait alors que sa cible s'est installée au Mexique, lui propose d'acheter une maison à Mexico. Et la jeune femme, candide, amoureuse, est séduite par l'idée. Retraçons les derniers jours de Léon Trotsky, révolutionnaire russe exilé au Mexique et traqué par les services secrets staliniens. Un tueur espagnol engagé par le NKVD a réussi à avoir accès à la maison du soviet en se faisant passer pour un journaliste belge nommé Mornard qui a le projet d'écrire un article sur lui. Voilà donc une à deux fois par semaine à Calle Morelos. Il passe en moyenne une petite heure dans le bureau de Léon et les deux travaillent l'article que le journaliste veut écrire sur le révolutionnaire. Trotsky est obligé de repasser sur la plupart des phrases qu'il juge approximatives. À force, il a fini par se faire au caractère du jeune Belge qui accepte, sans trop de problèmes, les jugements émis sur son travail. Son article commence d'ailleurs à toucher à sa fin. Ce 20 août 1940, donc, aux alentours de 17h30, Léon attendait Mornard chez lui. Comme tous les jours, il s'était réveillé à 6h et il avait travaillé toute la matinée jusqu'au déjeuner. Après avoir mangé, il s'était attribué 2 heures de sieste, tant la chaleur écrasante de ce mois d'août freinait sa concentration. Il avait ensuite envoyé quelques courriers avant de rejoindre Natalia dans le jardin qui était en train de s'occuper des poules et des lapins. La sécheresse du mois d'août avait fait particulièrement souffrir le jardin des Trotsky et Natalia s'échinait depuis plusieurs jours à tenter de le remettre d'aplomb. Ce jardin, c'était la bouffée d'air de Natalia au milieu de l'environnement anxiogène qui régnait et des menaces qui planaient sur son mari. Elle avait réussi à donner à cet espace des airs de jardin exotique, regorgeant de plantes rares qui ne poussaient que dans un certain type de climat. Les poules leur fournissaient chaque jour une 10aine d'œufs, tandis qu'ils tuaient un lapin par mois et le donnaient à la cuisinière pour qu'elle leur fasse un ragoût russe dont Léon raffolait. C'est aux alentours de 17h que le journaliste belge avait fait irruption dans le jardin. Depuis quelques jours, Léon lui avait communiqué le mot de passe à donner aux gardes pour entrer dans la propriété. Il n'avait donc plus besoin de se faire annoncer. De plus, Sylvia Aguelov était en congé pour la semaine. Le journaliste venait tout seul. La première chose que repère Natalia en voyant ce grand brun s'avancer vers eux, c'est le long trench coat beige qui lui arrive jusqu'aux chevilles. « Eh bien, Mornard, vous ne crevez pas de chaud sous votre imperméable ?» Ça fait au moins 35 degrés, lui lance-t-elle pendant qu'il s'approche d'eux. J'ai entendu à la radio qu'il allait probablement pleuvoir vers 19h. Lui répond Mornard d'un ton calme, monotone. Léon, agenouillé dans la terre, en train de retirer des mauvaises herbes qui empiètent sur les racines de son avocatier, relève la tête pour alpaguer Mornard. Allez, perdons pas de temps. Allons directement à mon bureau finaliser votre papier. Je voudrais pas me coucher trop tard ce soir. Sans broncher, son interlocuteur suit Trotsky jusqu'à l'intérieur de la maison. Natalia regarde les deux hommes s'éloigner pendant qu'elle reste dans le jardin. Trotsky et Mornard s'installent dans le bureau de Léon. Le journaliste a ramené l'ultime mouture de son article qu'il a retravaillé depuis leur dernière entrevue. Celle-ci devrait être la version finale, une fois les corrections du vieux intégrées. Léon est assis à son bureau tandis que Mornard se tient debout derrière lui, gardant un œil sur le papier que Trotsky est en train de relire. Il a gardé son grand imperméable. Mornard semble mal à l'aise. Il respire fort, transpire à grosses gouttes et tangue d'une jambe à l'autre. « Vous allez bien, mon grand ?» lui demande Trotsky sans se retourner, dérangé par les râles du journaliste derrière lui. « Mais enfin, enlevez votre manteau, vous semblez étouffé. » Mornard reste muet. Il sait que c'est le moment pour agir. Il déboutonne doucement son imperméable et en sort un pic à glace, dont il a raccourci le manche, afin qu'il tienne sous sa gabardine. Il avait bien pensé à tirer sur le vieux avec un pistolet, mais il s'était dit que le bruit de la détonation aurait pu attirer l'attention des gardes et compliquer sa fuite. Le piolet, il savait l'utiliser. Il avait appris en Russie à briser un bloc de glace en deux coups. Ce piolet-ci, il l'avait trouvé dans la remise de la maison des Trotsky quelques jours plus tôt. Il l'avait alors planqué dans sa gibecière et l'avait ramené chez lui. Le vieux, toujours hypnotisé par la relecture de l'article, ne s'aperçoit pas que l'agent stalinien se prépare à l'assommer. Lentement, Mornard lève le piolet qu'il tient au bout de son bras et frappe de toutes ses forces le haut du crâne de Trotsky. Le pic à glace s'enfonce de 70 cm dans la tête du vieux et un flot de sang jaillit sur l'imperméable de l'assassin. Il s'écoule alors une seconde avant que le bolchevik pousse un hurlement déchirant. Mornard, qui pensait le tuer en un coup, s'y est en réalité mal pris. Il a frappé Trotsky avec la partie plate et large du piolet et non du côté du pic incurvé. Le vieux, dans un élan de survie, a le temps de se retourner comme un combattant et d'attraper la main gauche de Mornard, la droite tenant encore le manche du piolet. Gravement blessé, le sang ruisselant de sa tête, il emploie ses dernières forces pour mordre cette main de toutes ses forces, lui enfonçant ses dents jusqu'à l'os en hurlant pour sauver sa vie et empêcher l'assassin de lui asséner le second coup fatal. En face de lui, Mornard, le visage fantomatique, lâche alors le piolet par terre, se retourne et court vers la porte du bureau. Mais les hurlements de Trotsky ont immédiatement attiré l'attention de Natalia et des sentinelles qui gardent la maison. Aussitôt, le chef de la patrouille de garde se précipite avec ses hommes dans le bureau de Léon. Les quatre gardes se jettent sur Jacques Mornard et l'immobilisent en quelques secondes au sol. Trotsky s'effondre dans les bras de Natalia, du sang dégoulinant sur les visages. Dans la maison, c'est un vacarme total. Les domestiques crient, terrorisés par la vision d'horreur du vieux bolchevik sanguinolent dans le bureau. Les gardes tentent de maîtriser Mornard, qui se débat tant bien que mal, tandis que Natalia hurle de toutes ses forces qu'on aille chercher de quoi éponger le sang et surtout qu'on emmène son mari à l'hôpital immédiatement. Le vieux, lui, est étonnamment calme. Agonisant, il utilise ce qui lui reste de vigueur pour dévisager son amour de toujours. « Natalia, Natalia, je t'aime », lui dit-il. Puis, avec une forme de fierté sur le visage, il rajoute « Il ne faut pas qu'il le tue, il faut qu'il parle. » Quelques minutes plus tard, La rue est bloquée par les gardes de la maison afin que la police de Mexico ainsi que les secours puissent intervenir en urgence. Léon est accompagné dans l'ambulance par sa femme et le chef de sa garde. Il perd petit à petit connaissance et sa parole devient diffuse. Reste avec moi, mais reste avec nous, je t'en prie, lui supplie sa femme, lui tenant la main, en pleurant pendant que l'ambulance dévale à toute vitesse les rues désertes de Coyoacán. Une fois à l'hôpital, il est transporté en urgence au bloc opératoire. Le médecin-chef ordonne à son équipe qu'on le déshabille. À moitié inconscient, le vieux bolchevique lance alors un dernier cri. « Non, pas question. Il n'y a que ma femme qui puisse me déshabiller. » Natalia s'approche alors lentement de son mari et lui déboutonne sa chemise. Elle l'observe une dernière fois. Elle le trouve beau, même avec le visage taché de sang et le crâne déformé par le trou du piolet. Elle se penche alors vers lui et l'embrasse tendrement. Léon, perdant conscience peu à peu, lui prend la tête pour lui chuchoter à l'oreille. J'ai confiance dans le triomphe de la 4e internationale. En avant, murmure-t-il dans un dernier souffle. Après une longue nuit d'agonie, le vieux révolutionnaire succombera à ses blessures à l'hôpital de Mexico. C'est seulement quelques jours plus tard, pendant le déroulé de l'enquête, que l'on apprendra la réelle identité de Jacques Mornard. Les enquêteurs appellent l'ambassade belge qui fournit les registres de ses ressortissants sur lesquels le nom de Mornard n'apparaît jamais. On découvre également que l'adresse inscrite sur son passeport belge, chaussée de Wavre 271 à Bruxelles, est en réalité l'adresse d'un grand magasin existant à cet emplacement depuis 50 ans. Alors, qui est-il? Et surtout, qui l'a mandaté? Pour éclaircir ce mystère, l'assassin de Trotsky est dans un premier temps condamné à 20 ans de prison ferme. C'est lorsqu'il est décoré par Staline de l'ordre du mérite, alors même qu'il est encore en prison, que les enquêteurs font le lien et découvrent sa véritable identité. Ramón Mercader. Durant ses 20 années de détention, Mercader ne reçoit que peu de visites. Il rentre rapidement dans les réseaux staliniens de la prison de Mexico, ce qui lui permet d'obtenir quelques privilèges. Après 7 ans d'enfermement, il rencontre Rogelia, une jeune Mexicaine condamnée pour recel. La jeune femme lui plaît beaucoup et il ne faudra que quelques mois pour que les deux prisonniers se marient en prison. À leur sortie, en 1960, ils se rendront ensemble en Russie, où l'assassin de Trotsky sera rebaptisé Ramón Ivanovitch López. Après quelques années en URSS, incommodé par le froid, le couple déménagera pour Cuba, où Ramón mourra d'un cancer des os en 1978. C'est ainsi que s'achève donc le récit des derniers jours de Léon Trotsky, éternel roi sans couronne des révolutions russes, qui n'aura jamais réussi à mettre en place sa 4e internationale. Mais près de 80 ans après sa mort, son idéologie persiste et de nombreux mouvements communistes se revendiquent encore du vieux révolutionnaire.